Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Radio. Une radio pas comme les autres.
La chose qui m'a le plus tapé sur les nerfs pendant l'entièreté de la pandémie, plus loin que le confinement, plus loin que de manquer mes événements, mes spectacles, c'est d'avoir des gens en studio ici à Cube Radio. Et là, j'ai le privilège d'avoir pour la rencontre d'aujourd'hui Julia Pagé et Rémi Villemur qui sont en studio avec moi. Bonjour.
Allô.
Salut.
Et pour pas n'importe quoi, hein, pour pas n'importe quel sujet, parce qu'aujourd'hui, on va parler de fête nationale. Hein? C'est demain, ce soir, pour les gens de Québec qui vont aller voir le spectacle sur les plaines. Je sais. Mais c'est la Saint-Jean-Baptiste, notre fête nationale. Et on a voulu discuter de René Lévesque. Parce que c'est aussi l'année René Lévesque, hein, cette année. On célèbre ses 100 ans de naissance. Et c'est un personnage qui est emblématique au Québec, mais que nous, je rappelle nos âges, là, le plus vieux d'entre nous a 28 ans, ça va en descendant. On n'est pas des gens qui ont côtoyé de notre vivant René Lévesque. Pourtant, vous êtes, vous deux, tout comme moi, marqués à votre manière par René Lévesque.
Ben, moi, j'ai 23 ans. Je connaissais René Lévesque, le souverainiste, l'architecte de évidemment, bon, grand personnage de l'indépendance. Hier, je suis tombée dans un rabbit hole de René Lévesque. J'ai découvert René Lévesque dans l'ampleur de son génie journalistique. René Lévesque, l'homme de médias, tout le monde y trouve son compte. Tu peux avoir René Lévesque, le journaliste, René Lévesque, le défenseur de la langue française, René Lévesque, le créateur du PQ, René Lévesque, celui qui a fait la Révolution tranquille, l'hydroélectricité. Il y a tout. Il a tout fait. C'est un homme tellement complexe. Tout le monde peut apprendre de lui. Mais là, j'en parlais un peu à Rémi avant de commencer l'émission. Il y a la souveraineté qui est majeure dans son œuvre. Et on se demandait, quand on est un politicien, est-ce qu'on peut se revendiquer de René Lévesque si on n'est pas souverainiste?
C'est une bonne question. Toi, Rémi, qu'est-ce que t'en penses?
Ben, moi, je pense qu'absolument. De toute façon, l'héritage de René Lévesque, au-delà de la question indépendantiste, c'est de nous avoir transmis le courage et l'audace tranquille. Ce sont pas mes mots, c'est les mots qu'on retrouvait dans Option Québec, un livre qui a fait paraître en 1968. Il disait aux Québécois, là, c'est le moment d'agir, c'est le moment de prendre possession de nous-mêmes. Et ça, aujourd'hui, c'est pour ça que quand tu parles avec un fédéraliste, il va même un anglophone ou quelqu'un qui est issu des populations immigrantes, le souvenir de René Lévesque est encore saillant. Les gens, ils savent que si aujourd'hui les Québécois se tiennent debout, si aujourd'hui les gens parlent en français et sont fiers de parler français, c'est René Lévesque qui nous a transmis cet héritage-là. Donc, on est au-delà de la question indépendantiste.
Ouais, et puis quelque part, le fait qu'il ait vécu, tu sais, de plein fouet, si on veut, la Révolution tranquille aussi, hein, parce qu'il était au cœur, tu sais, de ces changements-là. Il a participé activement. Mais d'un autre côté, moi, je pense, tu sais, puis je vous relance la question, tu sais, est-ce que René Lévesque, justement, dans sa pluralité qui était, est-ce qu'on le ramène trop souvent seulement à l'indépendance? Est-ce que c'est pas de le réduire à une seule de ses nombreuses réalisations que de toujours associer immédiatement René Lévesque l'indépendance puis pas parler du reste?
Moi, je pense que c'était trop majeur, l'indépendance dans sa vie, pour pas qu'on le réduise à ça. C'était tout, c'est ce qu'il voulait, mais en même temps, évidemment, il a été beaucoup plus. Mais je pense que si on enlève ça, on enlève pas mal le cœur de cet homme-là. C'est un homme tellement droit, tellement à cheval sur ses principes, tellement charismatique, tellement... Je veux dire, c'est un exemple à tellement de niveaux. On peut piger là-dedans aussi. Mais la souveraineté, c'est majeur.
Ouais. Et ça l'a rendu peut-être un peu aigri même, vers la fin, ça se peut, hein, de que ça n'ait pas fonctionné.
Hein. Absolument, mais René Lévesque, en plus, il a fait le parcours que beaucoup de Québécois font dans leur vie. Il a commencé... L'indépendance, pour lui, c'était pas vraiment une possibilité. Il était dans le cabinet de Jean Lesage, il suivait la parade, il était fédéraliste. Et par la suite, il est arrivé à la conclusion que il n'y avait pas possibilité d'aller plus loin si on faisait pas l'indépendance. Puis ça, il l'a dit en entrevue, il a toujours dit, j'ai tout essayé. J'ai pensé qu'on pouvait réformer le Québec, j'ai pensé qu'on pouvait placer le Québec dans en une meilleure position à l'intérieur du Canada, c'était pas possible. L'indépendance du Québec, pour lui, c'était non seulement un projet, mais c'était aussi la nécessité. C'était l'avenue, la seule avenue qui restait.
Penses-tu, Rémi, que, parce que je te sais toi-même, fier nationaliste, avec des opinions assez souverainistes de ton côté, est-ce que, pour toi, le fait là, t'sais, que des jeunes, par exemple, comme toi, puissent avoir, sans avoir connu René Lévesque, t'sais, suivre son rêve, vouloir d'un État souverain pour le Québec, même sans avoir eu les grands discours enflammés, parce que c'est quelque chose, moi, que je trouve triste, c'est que les gens se désintéressent de la politique. Il y a beaucoup de gens, là, on les voit plus, les énormes rallyes, les foules en liesse de gens qui boivent les paroles d'un politicien. C'est une époque qui est malheureusement révolue, ou que si on la voit, c'est des gens qui suivent des dirigeants qui sont souvent des autocrates, qui sont des gens qui versent dans des dérives autoritaires. Et moi, ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai manqué dans ma vie. Mm-hmm. J'aurais aimé participer à des élans de foule comme ça, des rallyes majeurs. Mais qu'est-ce qui fait, toi, et qu'est-ce que penses-tu qu'une génération comme la tienne, comme la mienne, comme la nôtre, qui va se revendiquer de ce rêve-là d'indépendance?
Absolument, mais c'est pas révolu. C'est-à-dire qu'on traverse une période vraiment sombre là, de l'histoire du Québec. On est retourné à l'ambivalence. Dans la biographie de Daniel Johnson, Pierre Godin, il dit que c'était le dernier des ambivalents. Mais là, la vérité, c'est que c'est revenu. François Legault, c'est notre nouvel ambivalent. Il hésite entre deux positions. On traverse une période difficile, mais on va continuer, on va s'y rendre. C'est juste que quand les luttes sont longues, il faut être patient. Il faut se battre. Puis dans l'histoire, il y a des luttes qui durent 1000 ans, puis on est rendu à un bout de tough. Mais on y va.
J'espère que ça prenne pas 1000 ans, parce que je pense pas qu'il reste 1000 ans au Parti québécois en ce moment, Julia.
Ben, moi, je pense que nos politiciens ont pas l'éloquence de M. Lévesque. Il y avait vraiment quelque chose de fascinant dans le personnage qui, dans son humilité, puis c'était quelqu'un qui passait ses journées à la bibliothèque, qui travaillait énormément dans le temps, surtout il était journaliste, qui a fait énormément de recherches, un ascète, presque, c'est comme presque un moine, bon, un moine qui fume énormément, mais bon, un moine quand même. Puis il y avait quelque chose dans lequel les gens pouvaient se voir parce qu'ils ne les prenaient pas de haut, parce qu'ils étaient à leur niveau et pourtant si brillants. Moi, je vois pas ça dans nos leaders actuels, puis peut-être que ça joue un rôle aussi.
Ouais, ça se pourrait, parce qu'il y a des gens qui se déconnectent de la politique, mais c'est cyclique peut-être l'indépendance. C'est ce que tu disais, peut-être que c'est un rêve qui revient, qui perd d'intensité, qui va revenir. Hier, on en parlait, 43% des membres qui votent pour la CAQ disent être pour l'indépendance, 42 contre. Donc, il y a vraiment un schisme important qui se fait là. Dans le dernier sondage léger, c'est pas une majorité de gens qui voulaient l'indépendance, mais pourtant, c'est beaucoup plus, cette proportion-là, on est en haut des 30%, que des proportions de vote qui sont pour le Parti québécois, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est un véhicule, malheureusement, qui a été fondé, il faut toujours s'en souvenir, qui a été fondé par René Lévesque, mais est-ce que son véhicule, la voiture qu'il a construit lui-même, est arrivé à expiration?
Ben malheureusement, on va avoir cette réponse là aux élections. Ça va être une réponse qui va être assez définitive. Mais moi, je pense que le Parti québécois était un véhicule, comme tu viens de le dire. Puis l'important, c'est pas le véhicule, c'est où on s'en va. Il faut juste pas changer la direction ni la destination. Si le Parti québécois n'est plus le véhicule, ça sera un autre parti. Moi, je pense qu'à la CAQ, il y a quelque chose qui se passe. Puis c'est les historiens dans 30 ans qui vont nous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer à la CAQ.
Ben là, tu me parles d'une théorie du complot.
Absolument.
Hein, parce qu'elle se ramène constamment, celle-là, là, comme quoi. Moi, j'en ai entendu des gens qui disent ça. Ouais, François Legault, secrètement, là, il va faire l'indépendance, ça s'en vient, là, quand tout le monde va être de son bord. Enfin, il va le faire.
Dans deux, trois ans, là.
Dans deux, trois ans, ça s'en vient. Attendez, vous allez voir. Ça se mêle beaucoup, malheureusement, les théories complotistes avec la politique en ce moment. Et c'est un sujet sur lequel je vais vouloir activement qu'on revienne. Mais il y a des membres du Parti conservateur qui ont rencontré, là, des députés, pas juste des membres, des députés qui ont rencontré cette semaine des membres des mouvements, là, entre autres, des vétérans pour la liberté, hein, Veterans for Freedom, qui se revendiquent que c'est des gens là un peu complotistes, conspirationnistes, ne mâchons pas nos mots, qui vont militer contre la fin de toutes les mesures sanitaires, même s'il y en a pratiquement plus, tout l'été à Ottawa. Ça te fait quoi, toi, Julia, de voir des politiciens comme ça engager le dialogue avec des gens qui méprisent ni plus ni moins la démocratie libérale?
Ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si on n'ouvre pas la porte au dialogue, ils vont se radicaliser. Mais si on ouvre la porte au dialogue, on doit accepter que ce genre de discours est dans le discours canadien. les politiciens ont toujours un peu de mal à se positionner. Justin Trudeau, avec le convoi des camionneurs, a eu beaucoup de mal, a décidé de pas ouvrir le dialogue, les a souvent pris un peu de haut. Moi, évidemment, les camionneurs, je suis pas de leur bord, là. Même si certaines des revendications, évidemment, il faudrait peut-être les écouter. S'ils sont fâchés dans la rue, là, puis qu'on leur dit non, on vous écoute pas, ben eux ont d'autant plus de raisons de manifester parce que c'est exactement ça qu'ils veulent, qu'on les écoute et on répond à ça. Non, on ferme la porte au dialogue. Après, ouais, évidemment, les conservateurs, c'est leur base électorale. Donc, il y a ça qui joue. Justin Trudeau, les camionneurs, c'est pas sa base électorale. Il l'a joué, disons, sécuritaire.
En ne faisant absolument rien et en ne répondant à rien. Oui.
Parce qu'il sait que jamais les camionneurs vont voter libéral, là, soyons réalistes. Mais il sait aussi que sa base déteste les camionneurs. Donc, il a fait le choix politique plutôt que d'ouvrir le dialogue et peut-être de favoriser une meilleure entente et favoriser que l'extrémisme ne se répande pas plus.
Ton côté, Rémi?
Moi, je suis assez d'accord. Je recherchais une phrase dans Le Prince. Machiavel écrit que le souverain doit se garder d'être méprisé et haïssable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que même si ces gens-là sont, disons, un peu capotés, il faut pouvoir les rencontrer. Il faut leur donner l'impression qu'ils ont encore une place dans une société démocratique. Et de toute façon, c'est aux élections que ces choses-là se règlent.
Ouais.
Je veux dire, on peut s'inquiéter autant qu'on veut de Maxime Bernier. Quand arrive le suffrage, il se fait péter la gueule. C'est ça qui arrive.
Ouais.
Même chose pour Annamie Paul à l'extrême gauche, parce qu'on parle beaucoup de l'extrême droite, mais il y a l'extrême gauche aussi.
Absolument.
Et le comité décolonial de QS s'est fait tasser aussi. Donc, ces choses-là sont des choses qui se déroulent dans l'organique. Ça arrive de toute façon. Entre-temps, on peut donner la parole à ces gens-là. Puis quand ils se présentent aux élections, ils se font péter la gueule, puis on continue.
Ouais, je vous dirais, le défi là-dedans, c'est vraiment de trouver le juste équilibre, parce que la ligne est extrêmement fine. Quand on parle avec des gens qui se revendiquent d'idées conspirationnistes, la ligne est tellement fine et mince entre avoir des idées un peu, je le dis, conspirationnistes, et d'être tout simplement raciste ou antisémite. Mmh. Parce que il y a beaucoup de théories complotistes qui directement relèvent de l'antisémitisme. Et moi, un truc qui m'inquiète particulièrement, c'est la course à la chefferie conservatrice en ce moment. C'est des gens comme Pierre Poilievre qui vont sciemment, là, puis ils savent ce qu'ils font, même s'ils vont jamais le dire verbalement très fort, qui utilisent des mots clés, des connotations, on appelle ça du dog whistling en anglais, du sifflet à chien, parce qu'un sifflet à chien, c'est une fréquence que certaines personnes entendent seulement. Cette fréquence-là, c'est quand ils utilisent des termes comme « on va se retirer de la Banque mondiale »,« le Fonds monétaire international, ce sont des bandits, datata ». Ça, c'est pas dit directement, mais ça s'en prend aux gens, aux dirigeants de ces organisations-là, qui sont souvent, ben, comme M. Schwab, Carlos Schwab, entre autres, ben, des Juifs. Et ça perpétue des idées du grand complot juif mondial, des Juifs véreux et banquiers qui contrôlent l'économie, j'utilise leurs termes, évidemment. Mais ça, c'est un sifflet à chien pour les gens qui sont directement antisémites. Et malheureusement, c'est les gens qui vont se retrouver à voter pour des, peut-être, futurs chefs comme ça. Moi, ça m'inquiète, mais il faut quand même, je pense que vous avez raison, ouvrir le dialogue. Comment l'ouvrir? Ça, c'est un excellent débat qu'on va devoir poursuivre la semaine prochaine, parce que c'est déjà tout pour nous, cette courte visite en studio. Il y en aura d'autres. Merci à vous deux. Bonne Saint-Jean-Baptiste, en espérant qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud pour vous deux.
C'est pas prévu.
Et on se retrouve lundi prochain.
À lundi.